Bonjour, je suis Alain Hiron Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, Jean Gandou reçoit Maître Georges Kapiamba, président national de l'ONG Association pour l'accès à la justice ACAJ. Il s'exprime en marge de la journée du 9 décembre où le monde a célébré la journée consacrée à la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Georges Kapiamba, bonjour.
Bonjour Jean Gandou, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Le 9 décembre dernier, le monde entier a célébré la journée de lutte contre la corruption et cela a coïncidé avec les ateliers de sensibilisation contre la corruption que votre ONG ACAJ organisait à Lubumbashi. D'entrée de jeu, dites-nous, que peut-on entendre par corruption?
La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne appelée corrompue sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. L'infraction de corruption a une double portée parce qu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. C'est ainsi qu'on distingue la corruption active, qui est du fait du corrupteur, et la corruption passive, qui est du fait du corrompu. Cette approche de la corruption est importante parce qu'elle permet d'inclure dans les formes de la corruption les autres formes, notamment les dessous des tables, les pots de vin, les extorsions, les paiements des facilitations, les trafics d'influence et les blanchiments de toutes ces pratiques. C'est notamment lorsqu'on parle de blanchiment des pratiques, c'est lorsque par exemple quelqu'un a perçu une somme d'argent du fait d'un acte, d'une opération de corruption, qu'il achète un immeuble, il loue, le loyer qu'il perçoit est un produit du blanchiment de la pratique de corruption. Les ateliers que nous avons organisés à Lubumbashi font suite à ce que nous avons réalisé aussi à Kinshasa, à l'intention de plusieurs acteurs étatiques et non étatiques qui sont engagés dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Et c'est de la sorte que nous avons dit, à l'approche du 9 décembre, qui est la journée internationale dédiée à l'évaluation des efforts fournis dans tous les États en vue d'éradiquer ce fléau qui est la corruption, nous avons pensé les organiser avant de chuter au 9 septembre de l'année en cours, afin de pouvoir renforcer les capacités des 10 acteurs pour qu'ils deviennent réellement de femmes et des hommes qui vont contribuer à coup sûr à l'éradication de ce fléau qui est à la base de la pauvreté dans notre pays, à la base du sous-développement de la RDC ainsi et de son peuple.
Et quelles sont les différentes formes de corruption qu'il y a en RDC et quelle est celle qui est beaucoup plus en vue?
Je voudrais quand même rappeler qu'en termes de formes de corruption, en dehors de celles que j'ai indiquées, il faut aussi ajouter ce qu'on appelle l'abus de fonction. Même les abstentions coupables font partie des formes de corruption. Il faut ajouter les obstructions à la justice, par exemple les gens qui se permettent d'intervenir pour X, Y en vue de lui faire gagner par exemple un procès de manière malhonnête, de manière irrégulière, ceux-là doivent savoir qu'ils commettent des actes de corruption. Et je termine par rappeler que parmi ces formes, l'une la plus répandue dans notre pays, c'est le trafic d'influence, qu'il faut entendre comme les faits par quelconque de solliciter ou d'agréer à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision. Et donc, entre la corruption et le trafic d'influence, quelle peut être la différence entre les deux? Il faut tout simplement insister sur le fait que la notion de trafic d'influence, elle est plus proche de la corruption, donc c'est une corruption. Et que la petite différence peut résider en ce que le trafic d'influence nécessite la présence d'un intermédiaire entre entre les bénéficiaires potentiels et l'autorité publique qui va user de son influence pour obtenir la décision souhaitée. Par contre, dans la corruption, nous n'avons que d'un côté un corrupteur et de l'autre côté un corrompu, donc il n'y a pas trois personnes.
Et quelle démarcation y a-t-il entre la corruption et la fraude ?
La fraude est l'une des manifestations tout simplement de la corruption parce qu'il faut considérer que la corruption est un comportement par lequel on arrive tout simplement à se faire octroyer un avantage indu, un avantage illicite, c'est-à-dire qui n'est pas prévu par la loi ou on l'obtient en contournant la loi. Recours, par exemple, à la fraude fiscale, à la fraude douanière, c'est pour échapper au paiement des impôts, au paiement des droits dus à l'État lorsque on importe de la marchandise. Et donc, on épargne une somme d'argent quelconque de son patrimoine qui aurait dû être versé à l'État, c'est-à-dire que au lieu de s'appauvrir en les versant à l'État, on l'épargne à ce moment-là, cette somme d'argent qui aurait dû être versée sur les comptes des trésors que soi-même on a protégé est un avantage illicite. C'est un avantage résultant d'un comportement criminel, d'un contournement de la loi. Voilà pourquoi la fraude est considérée comme l'une des formes mieux la manifestation de la corruption.
Vous avez fait recours lors d'une des séances ici à Lubumbashi aux inspecteurs de l'inspection générale de finances. Pourquoi faire ?
À l'étape de Lubumbashi, nous avons associé les inspecteurs de finances parce que vous savez qu'ils font partie des acteurs étatiques les plus importants dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, principalement sous la forme de détournement des deniers publics. À Kinshasa, ils sont en discussion, en échange de manière régulière avec les acteurs de la société civile, les responsables des syndicats, des secteurs publics comme privés. Et cela ne se fait pas dans des provinces et donc nous avons discuté avec leur chef pour démarrer ce genre d'échange afin que tous les acteurs des provinces arrivent à s'approprier des attributions, des missions, mais aussi des modalités d'action de cet instrument important dans la lutte contre la corruption. Donc après ces activités, ces actions avec l'IGF, nous organiserons encore dans des provinces avec les responsables de la cellule nationale de renseignement financier.
Vous avez parlé de l'IGF. Qu'est-ce que donc cette institution a déjà apporté au trésor public depuis qu'elle a commencé la patrouille financière?
Nous ne pouvons pas donner tous les détails maintenant. Il est difficile d'en donner. Je crois que l'IGF elle-même est mieux placée pour en fournir. Mais il faut quand même reconnaître que c'est grâce à l'action de l'IGF que certaines personnes aujourd'hui, principalement des acteurs étatiques, ont pris peur et ne veulent plus s'engager dans la corruption ou dans les détournements des deniers publics. Donc, ils savent qu'il y a un gendarme qui est là, qui est l'IGF, et si vous vous amusez, vous posez les actes qui vont violer les règles de la bonne gouvernance et que l'IGF passe, vous serez identifié, indexé et mis à la disposition de la justice. Il y a eu beaucoup de responsables qui ont perdu leur travail à la suite au moins de enquêtes de l'IGF. Rappelez-vous de plusieurs mandataires des entreprises, établissements publics qui ont eu à être suspendus, les autres révoqués, d'autres se sont retrouvés en prison. C'était à la suite de l'action de l'IGF. Bon, en termes de réalisation palpable, nous ne pouvons pas nous gêner de mettre aussi à leur actif l'augmentation des recettes de l'État, l'augmentation aujourd'hui des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale. C'est aussi grâce à l'action de l'IGF que toutes ces prouesses ont été réalisées au niveau du gouvernement.
Et que faudra-t-il faire pour la RDC de juguler la corruption et sur quoi le pays devrait-il se fonder pour y parvenir?
Pour juguler la corruption, nous proposons deux choses. Premièrement, c'est de renforcer au niveau national et à tous les niveaux la sensibilisation qui rentre dans la prévention. Il faut prévenir la corruption, mais pour prévenir la corruption, il faut intensifier la sensibilisation, l'éducation civique sur les conséquences de la corruption dans notre société sur tous les plans. Et cette éducation doit se faire en commençant, à notre avis, par l'école maternelle jusqu'à l'université. Et même l'étendre aussi dans tous les secteurs professionnels. Deuxièmement, il faut renforcer la répression. La répression suppose qu'il faudrait que les acteurs qui sont chargés de la lutte contre la corruption ou de l'application de la loi soient stricts, rigoureux, efficaces et qu'ils soient eux-mêmes déjà exemplaires, de manière à détecter à temps, identifier les actes de corruption, les corrupteurs, les corrompus, les intermédiaires dans les trafics d'influence, monter les dossiers, rapidement saisir l'autorité judiciaire compétente. Il faudrait que la justice aussi se réveille. Il faudrait que les magistrats fassent de la lutte contre l'impunité, des crimes liés à la corruption, qu'ils mettent en tête qu'il s'agit là d'une cause nationale. Et pour y arriver, il faudrait que les magistrats cessent de recourir à la perception des amendes transactionnelles dans les cas qui impliquent la corruption. Ou qu'il soit toujours regardant ou qu'il refuse de manière systématique des libertés provisoires aux personnes qui sont arrêtées, détenues pour des cas de corruption. Il faudrait instruire les dossiers jusqu'à la fin du procès. Donc, si cette rigueur est rétablie, nous pensons que ça pourra permettre au moins à faire prendre la peur à tout le monde pour qu'il ne puisse plus se livrer aux actes de corruption. Enfin, il faudrait que sur le plan politique, qu'on arrive à supprimer les avantages des personnalités politiques, comme les députés, les sénateurs, les ministres, en ce qui concerne les immunités. Il y a beaucoup d'immunités, il faut arriver à redéfinir ces immunités, les limiter, de manière à faire en sorte que quelqu'un, quelle que soit sa position politique, qui est impliqués dans les actes de corruption puissent rapidement être interpellés et soient obligés de répondre devant la justice, que les immunités ne puissent plus constituer un obstacle à la lutte contre l'impunité des crimes liés à la corruption. Enfin, nous insistons pour qu'à l'avenir, que le gouvernement et le président de la République puissent veiller à ce que les mesures de grâce présidentielle, des amnisties, ne puisse plus être utilisé comme les moyens par lesquels les condamnés pour des faits de corruption puissent contourner la rigueur de la loi. Parce que, comme vous l'avez constaté, depuis une année, nous avons enregistré la libération par les juges, notamment des grâces présidentielles, des personnes pourtant condamnées pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Ce ne sont pas des bons exemples. Quand les magistrats arrivent à les faire, ou c'est les ministères de la justice qui arrivent à les faire, ça ne donne pas un bon exemple. C'est de nature à décourager tous ceux qui sont engagés pour lutter contre la corruption et faire prendre peur à certains magistrats qui se sont engagés efficacement pour sanctionner avec rigueur ceux qui s'étaient compromis dans les actes de corruption.
Radio Okapi. Grande interview.
Dans Grande interview aujourd'hui, Jean Gandou reçoit Maître Georges Kapiamba, président national de l'ONG Association pour l'accès à la justice à Cage. Il s'exprime en marge de la journée du 9 décembre où le monde a célébré la journée consacrée à la lutte contre la corruption.
Vous demandez que les magistrats ne puissent pas accorder la liberté provisoire à ceux qui sont condamnés pour des faits de corruption ou de détournement de deniers publics. Mais cette allégation se base sur quelle disposition légale?
Maintenant, cette demande, parce que nous sommes rendus compte que finalement, les magistrats en ont transformé en un fonds de commerce. C'est-à-dire que, surtout pour des personnes qui sont poursuivies pour des faits de corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, ce sont ces personnes qui obtiennent facilement et rapidement leur liberté provisoire. Et nous savons pourquoi elle leur est accordée. C'est parce que ces personnes utilisent les moyens volés à l'État, à la communauté nationale, au peuple congolais, pour aller corrompre à leur tour les magistrats. Donc c'est devenu très dangereux. Et donc nous disons qu'il faudrait qu'on mette fin à cette pratique qui est devenue un moyen pour certains magistrats à pouvoir s'enrichir aussi à leur tour illicitement, c'est-à-dire en recourant à la corruption pour pouvoir se faire des moyens financiers. Alors vous posez la question, on pourra se baser sur quelle loi? C'est vrai que la Constitution dit que la liberté est la règle, la détention est l'exception, mais n'oublions pas qu'il s'agit là d'une volonté nationale, volonté qui est tenue ou au moins menée ou manifestée par la majorité du peuple congolais. Et aussi le gouvernement a dit dans son programme qui a été présenté devant l'Assemblée nationale qu'il allait combattre de manière systématique, efficace, la corruption et que pour cela, le gouvernement a demandé à la justice, surtout au parquet, de créer des sections de lutte contre la corruption afin d'éradiquer ces fléaux. Et donc, comme il a été considéré que pour les violences sexuelles, on ne peut pas accorder la liberté provisoire sans qu'il y ait eu une loi qui l'ait dit clairement, spécifiquement, et cela s'est fait, c'est devenu une pratique aujourd'hui, nous pensons qu'on peut aussi, et on doit en faire de même pour des personnes qui sont poursuivies pour des faits de corruption, détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. Et donc, il faudrait que tous les magistrats s'y mettent s'ils veulent prouver au peuple congolais, au gouvernement, qu'ils travaillent ou qu'ils servent loyalement l'État.
Et si tel est le cas, ne voyez-vous pas qu'il est important de renforcer la loi pour mettre le magistrat devant leurs responsabilités et pourquoi pas améliorer aussi leurs conditions de travail?
Il faudrait qu'à un moment donné qu'on puisse adopter une règle légale qui va le dire clairement. Et nous allons essayer aussi de nous battre avec les autres acteurs, de sorte que dans le cadre du processus législatif qui est en cours, c'est-à-dire que dans le cadre de la proposition de loi d'un député qui est déposé déjà à l'Assemblée nationale portant modification du code pénal, que ce principe puisse carrément être repris dans cette modification pour que ça devienne une règle impérative à l'égard de magistrats. Mais entre-temps, ils sont tous censés savoir qu'aujourd'hui, pour des personnes qui sont poursuivies pour des violences sexuelles, en dépit du fait qu'il n'existe pas pareil règle leur imposant de ne pas leur accorder la liberté provisoire, mais ils savent qu'il y a des instructions, soit verbales ou écrites de leur hiérarchie, qui interdisent formellement d'accorder la liberté provisoire. Et cela doit être de même aussi pour des personnes poursuivies pour des faits de corruption, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. En ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions, nous sommes d'accord et nous menons toujours le plaidoyer pour que l'article 149 de la Constitution soit respecté en ce qui concerne l'allocation au pouvoir judiciaire d'un budget conséquent qui devra lui permettre de répondre aux exigences de son fonctionnement. Les magistrats doivent arriver aussi à démontrer qu'ils ont la volonté d'agir dans le sens de contribuer à la politique gouvernementale de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Aujourd'hui, il n'est pas normal que depuis plus de 6 mois, que le gouvernement de la République a demandé à ce qu'il puisse, du moins au niveau des parquets, créer des sections de lutte contre la corruption, que cela ne puisse pas se concrétiser. Est-ce que pour ça, il faut toujours donner d'abord des moyens? Il leur revient à eux d'abord de mettre sur pied ces sections, sélectionner les membres de ces sélections, définir ou déterminer les budgets transmettre au gouvernement pour dire, voilà, vous, vous nous avez demandé de créer ces sections, nous l'avons fait, il faut maintenant les faire fonctionner, il faut des moyens. Et le gouvernement sera mis devant ses responsabilités, mais ils ne les font pas. Il en est de même de la question du renforcement de la sanction. Mais il n'est pas normal qu'aujourd'hui, toutes les plaintes qui sont déposées auprès de chefs hiérarchiques des magistrats concernant certains dérapages de certains magistrats ne sont jamais traitées. Il n'y a jamais eu de réponse. Il en est de même en ce qui concerne le non-respect des délais de prononcés. Ils ne respectent pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que le gouvernement donne l'argent pour qu'on puisse lire les moyens des partis et prendre sa décision. Donc, je crois qu'il est plus que temps, surtout avec l'interpellation du président de la République qui a exprimé sa profonde déception. Comme nous tous, comme le peuple congolais, nous puissions encourager nos compatriotes qui ont choisi de servir la nation au sein du pouvoir judiciaire quant à leur responsabilité. Ils ne doivent pas toujours continuer à se mettre derrière l'argument des manques de moyens pour justifier aussi les dérapages qui sont amplement constatés au sein de leur corps. Lorsque vous prenez les plus hauts magistrats qui sont à des niveaux plus élevés, qui vivent normalement aujourd'hui, est-ce que on peut considérer qu'ils sont réellement toujours talonnés par les mêmes besoins, alors que quand nous suivons les trains de vie des uns et des autres, nous nous rendons compte qu'ils vivent bien, mais ils vivent bien sans que ça soit dans la légalité. Bref, nous sommes tentés de croire finalement qu'ils se contentent aujourd'hui de leurs conditions actuelles. Ils ne voudraient pas que les choses changent. Ceux qui vivent mieux des produits de la corruption souhaiteraient faire pérenniser ce système en se disant que si on régularise la situation, même si on leur donnait des 2 000, 3 000 $, ils ne pourront jamais être capables de vivre dans les limites de leurs moyens. Il faudrait toujours qu'ils continuent à chercher plus. Donc, nous disons que les magistrats doivent donner aussi des signaux qui vont nous rassurer, rassurer l'opinion, qu'ils s'engagent dans les changements, qu'ils s'éloignent des antivaleurs. À ce moment-là, la nation entière va se coaliser derrière eux pour demander au gouvernement de leur fournir ou de leur verser régulièrement les frais de fonctionnement, d'augmenter leur rémunération, d'améliorer leurs conditions de travail.
Très souvent, dans les dénonciations que vous faites, l'accent est beaucoup plus mis sur les corrupteurs et pourtant il n'y a jamais eu des corrupteurs sans corrompus. Pourquoi cela ?
Dans nos dénonciations, nous les faisons autant contre les corrupteurs que contre les corrompus. Surtout lorsqu'il s'agit d'une corruption qui s'établit ou qui se réalise dans les secteurs publics, nous considérons que les deux doivent être traités sur le même pied d'égalité parce que les conséquences qu'ils entraînent de par leur comportement sont les mêmes, sont néfastes.
Nous remarquons que la corruption gangrène la société et elle est souvent décriée, mais elle ne cesse de s'enraciner. Quelle pourrait donc être la solution pour des résultats efficaces?
La réponse qu'il faut envisager afin de réaliser un bon résultat doit se situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la prévention qui comporte les actions à grande envergure qui doivent s'émener pour sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption et la nécessité pour que chacun de nos compatriotes a s'impliqué dans la lutte contre ces fléaux. Le deuxième niveau, c'est celui de la répression qui comporte notamment les actions ou la stratégie de détection, de poursuite, des sanctions et de la récupération des biens volés à l'État. Et donc, tous ces volets entraînent tant les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques. Mais il y a une institution qui a une grande responsabilité en ce qui concerne la répression, c'est la justice. Voilà pourquoi nous nous cessons d'augmenter des pressions sur les magistrats pour qu'ils s'engagent suffisamment dans la lutte contre la corruption, parce que s'ils ne le font pas, il sera difficile d'éradiquer la corruption à partir de la répression.
Je ne peux plus faire. je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix, je cours chercher Hélène. Travailler, c'est trop dur, épauler, c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis, je vis sur l'amour. J'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix. Je fonce chercher Hélène. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. La charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire.
En grande interview aujourd'hui, Jean Gandou reçoit Maître Georges Kapiamba, président national de l'ONG Association pour l'accès à la justice à Cage. Il s'exprime en marge de la journée du 9 décembre où le monde a célébré la journée consacrée à la lutte contre la corruption.
Il est bien vrai que les ONG, dont la vôtre, continuent à dénoncer la corruption, mais il arrive aussi que ces ONG se laissent soudoyer. Ce qui fait que par moment, on assiste à la publication des communiqués et contre-communiqués des ONG qui s'entrecusent. Ne voyez-vous pas que cela vous discrédite et renforce l'enracinement de la corruption sur le terrain?
Je crois qu'il s'agit là de situations déplorables. Hein? Les ONG qui sont engagées dans la lutte contre la corruption ou qui travaillent pour la promotion et la protection des droits de l'homme ne doivent pas se contredire sur des questions essentielles de lutte contre la corruption. Elles doivent parvenir à créer une synergie devant leur permettre d'échanger et de trouver un langage commun, trouver des consensus de manière à ne pas décevoir la population.
S'il est vrai que la corruption est présente dans tous les secteurs de la vie, à quelle hauteur estimez-vous le manque à gagner pour le trésor public?
Les manques à gagner sont énormes, mais s'il faut se référer à un des chiffres qui n'est pas toujours contesté à ce jour, c'est celui qui a été avancé par professeur Luzolo lorsqu'il était conseiller spécial du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Il avait déclaré qu'après ses enquêtes, il s'était avéré que chaque année, à cause de la corruption, la République démocratique du Congo perdait 15 milliards de dollars. 15 milliards, s'il vous plaît. C'est un chiffre énorme parce qu'il dépasse largement les chiffres du budget qui est réalisé jusqu'à ces jours. N'oubliez pas que pour l'exercice 2022, le gouvernement a déposé un projet de loi de finances avec les budgets qui avoisinent 10 milliards, tout simplement. Alors que chaque année,
la République perd 15 milliards. C'est beaucoup, parce que si cet argent était canalisé dans les comptes des trésors, utilisé de manière rationnelle par le gouvernement et ses entités, ça allait permettre à la RDC de résoudre beaucoup de problèmes, de relancer son économie, mais aussi de faire face aux sollicitations nombreuses de la population, surtout en ce qui concerne la création des emplois, la construction des routes, des infrastructures, mais sans oublier aussi l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État.
Georges Kapiamba, je vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Jean Gandou, coordination Michel Kifindangoy sous la supervision d'Alain Irung. Vous pouvez réécouter cette émission et même télécharger plusieurs autres numéros de Grande Interview en allant sur www.radioocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.